بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la rencontre de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, au sujet de la mort, qui est un des sujets les plus importants, un des sujets les plus terrifiants, les plus terribles, la mort, l'agonie de la mort. Et la mort, mes frères et sœurs, la mort est une réalité. La mort est même une vérité à laquelle chacun de nous devra faire face. Et la mort, personne ne pourra en échapper. La mort, elle touche toute personne. La mort ne fait pas d'injustice. La mort ne fait pas de différence entre les gens. Elle touche les pauvres et laisse les riches, ou touche les vieux et laisse les jeunes. Non. La mort touche le riche comme elle touche le pauvre, touche les jeunes comme elle touche les vieux, touche les gens en bonne santé comme elle touche les gens qui sont malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la mort à chaque homme, et chaque créature sur terre goûtera à la mort. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. Il dit dans ce verset, chaque homme goûtera à la mort. ويقول أيضا إنك ميت وإنهم ميتون. Il dit également, s'adressant à son prophète, à son messager صلى الله عليه وسلم, certes tu goûteras à la mort, ils goûteront également à la mort. وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. الحديث. Dans ce hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, notre prophète صلى الله عليه وسلم dit, Jibril عليه السلام est venu. Il m'a interpellé en disant, « Oh Mohammed, vis tant que tu voudras, c'est-à-dire le temps qu'Allah t'aura déterminé, certes tu goûteras à la mort. Aime qui tu voudras, certes tu t'en sépareras. Et accomplis ce que tu veux, certes tu en seras rétribué. Donc si la situation est telle, comment nous on doit accueillir la mort? Comme on vient de l'entendre, on se doit de se préparer, de préparer ses bagages, de préparer ses provisions. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, دخل يوما المقابر فقال يا أهل القبور يا أهل القبور ما الخبر عندكم ما الخبر عندكم فأما الخبر عندنا فأما الديور أو البيوت فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت ثم قال فما الخبر عندكم ثم ختم بقوله والذي نفسي بيده لو أذن لأحدهم بالكلام لقال إن خير الزاد التقوى. علي بن أبي طالب un jour en entrant dans un cimetière, il interpelle les résidents, les gens dans les tombes. Et il dit, oh les gens dans les tombeaux, dans les tombes, quelles sont les nouvelles? Quelles sont vos nouvelles? Quant à nos nouvelles à nous, quant à vos demeures ou vos maisons, elles ont été habitées. Quant aux épouses, elles ont été remariées. Quant à vos biens, ils ont été partagés. Ensuite il dit, par celui qui a mon âme dans sa main, par Allah Azza wa Jal, si on aurait permis à l'un d'eux de parler et de répondre, il aurait dit, la meilleure des provisions est la piété. La meilleure des provisions est la piété. Et sachez que la mort ne prévient pas. La mort ne vient pas taper à la porte et demander la permission d'entrer. La mort, elle est soudaine. La mort, elle surprend. La mort, elle vient subitement. La mort vient dans les instants où peut-être tu t'y attends le moins. Et à ce moment-là, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de marche arrière. يقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا فلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Il dit quand vient leur terme à l'un d'eux, ils ne peuvent le précipiter ni le retarder. ويقول أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. Il dit également, aucune âme ne pourra mourir si ce n'est par la permission d'Allah, un temps déterminé, prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous on a la certitude en cela, on se doit de préparer nos provisions et de préparer nos bagages, car le départ peut survenir à tout instant et à tout moment. Certains disaient, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta vie, profite de ta vie pour adorer Allah avant que vienne l'heure de ta mort. Profite de ta santé pour l'adoration d'Allah avant que vienne le jour où tu es malade, le jour de ta maladie. Profite de ta richesse avant que vienne le moment où tu seras pauvre, où tu ne pourras pas faire certaines adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, sachez que la mort lorsqu'elle se présente et lorsque la personne débute son agonie, sachez que la mort a des affres terribles. La mort a des souffrances terribles. Elles sont plus dures que des coups d'épée, plus dures que des coups de scie. Allah Azza wa Jal seul connaît la souffrance et la difficulté de la mort. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء البارد ويمسح على رأسه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Notre prophète صلى الله عليه وسلم, notre messager, le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, à sa mort, lors de la maladie de sa mort, il avait auprès de lui un ustensile avec de l'eau fraîche. Il essuyait la tête. Il disait La ilaha illallah. La ilaha illallah. Certes, la mort a des affres. La mort a des souffrances. Il est rapporté de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui a décrit le moment de l'agonie à son fils. Il lui décrit le moment de l'agonie. Il lui dit, pour lui expliquer sa situation, il dit, oh mon fils, c'est comme si le ciel s'écrasait sur la terre et s'écrasait sur ma poitrine. Oh mon fils, c'est comme si je respirais par le chat d'une aiguille, le chat, le trou d'une aiguille. Oh mon fils, c'est comme si j'étais piqué par des épines dans tout le corps, du pied, des pieds, en remontant à la tête. Il est cité d'innombrables situations de pieux qui nous ont précédés, où il relate les moments de l'agonie. Que dire alors ceux qui sont dans les péchés? Que dira celui qui est dans la désobéissance? Est-ce que cette situation de ces hommes pieux, de ces gens qu'Allah a agréés, dont Allah est satisfait, est-ce que leur situation ne doit pas te faire peur, ne doit pas t'effrayer, ne doit pas t'inciter à te préparer, ne doit pas te pousser à accueillir la mort de la meilleure des façons? Et chacun d'entre nous passera par ce moment. Le moment où son âme débutera à quitter son corps. Car en réalité, on est un ensemble de jours. Comme disait Al-Hassan al-Basri, إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ مَجْمُوعَةٌ كُلَّمَا مَضَى يَوْمٌ مَضَى بَعْضُكَ. Il disait Al-Hassan al-Basri, en réalité, tu n'es qu'un ensemble de jours. Tu représentes un ensemble de jours que seul Allah connaît. Dès qu'un jour passe, dès qu'un jour s'en va, c'est une partie de toi-même qui disparaît. C'est une partie de toi-même qui disparaît. Et souvent, j'ai cité l'exemple du calendrier. Le calendrier que tous les jours, on vient enlever une feuille, on arrache une feuille, et à la fin de l'année, il ne reste plus que le carton. Alors imagine-toi ta situation. Tu es un ensemble de jours. On enlève les jours de ta vie jusqu'au jour où il te reste plus une seule minute. À ce moment-là, il restera le carton. Il restera ton corps. Il restera la carcasse. Et le calendrier est jeté dans la poubelle. Et toi, tu es jeté dans un trou, dans la tombe. Un trou sombre, sans compagnon, sans amis, sans proches. Sentez bien, mais avec tes actions. Mais avec tes actions. Et nous allons citer, comme l'a évoqué notre prophète alayhi salatu wassalam, dans le très long hadith de l'Bara ibn Azib, où un jour le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué et a cité à ses compagnons les étapes au moment où l'âme est retiré, est arraché par l'ange de la mort. et la succession jusqu'au retour dans la tombe et jusqu'à l'interrogation, jusqu'à l'interrogatoire des deux anges. Il dit dans le hadith, je le cite en majorité en français, car c'est un hadith trop long pour ne pas durer trop longtemps. Il dit dans le hadith, lorsque le croyant arrive au terme de sa vie d'ici-bas, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il est sur le point de débuter dans la vie de l'au-delà. Il dit des anges avec des visages blancs, des visages rayonnants comme le soleil, arrivent à lui. Ils descendent du ciel vers lui. Ils apportent avec eux un linceul du paradis. Ils amènent avec eux également le parfum du paradis. Et il s'assit aux côtés du défunt, aux côtés de celui qui agonise. Ils sont tellement nombreux, qu'il ferme son champ de vision. Des gens au visage blanc, rayonnant comme le soleil. Ça c'est le cas du croyant, le cas de celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une bonne fin dans cette vie. Et à ce moment-là, l'ange de la mort arrive. Et l'ange de la mort, ce n'est pas Azraïl. Azraïl n'est pas le nom de l'ange de la mort. Mais l'ange de la mort, il s'appelle Malakul Maut. Il s'appelle ange de la mort. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Dit, c'est l'ange de la mort qui arrache vos âmes. Il vient, il se présente à cette personne, à ce croyant. Il lui dit, ô âme apaisée, ô bonne âme, sors vers la clémence d'Allah, sors vers la satisfaction d'Allah, sors vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et l'âme du croyant à ce moment-là, elle quitte le corps d'une facilité. Elle quitte le corps telle une goutte d'eau qui sort d'une gourde, une goutte d'eau qui tombe d'une bouteille. Et elle est tenue par l'ange de la mort. Et les autres anges la saisissent. Ils l'enveloppent dans ce linceul venu du paradis. Ils la parfument du parfum du paradis. Il n'y a pas un ange dans le ciel, entre le ciel et la terre, sans qu'il implore le pardon pour cet homme. Les anges, ils invoquent Allah en faveur de cet homme. Et toutes les portes du paradis, elles s'ouvrent en faveur de ce croyant. Et chacun, chaque ange, chaque gardien, il invoque Allah afin que cette âme fasse son ascension de leur côté. Et là, et les anges commencent à monter. Ils montent et arrivent au premier ciel. Ils demandent la permission d'entrer. Et les anges leur ouvrent et leur donnent permission. Ils demandent à qui appartient cette âme ? À qui est cette bonne âme ? À qui est cette âme apaisée ? Et les anges de répondre, c'est un tel, fils d'un tel. Et ils le citent par les plus beaux noms par lesquels il était cité, il était connu dans ce bas monde. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, à ce moment du hadith, il cita le verset « Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun » dont le sens est, nos messagers, c'est-à-dire nos anges, arrachent sans âme, sans aucune négligence. Ils prennent l'âme sans aucune négligence. Et à ce moment-là, elle monte de ciel en ciel, et elle est accompagnée, et les anges ne cessent d'invoquer en sa faveur. Quand elle arrive au septième ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne d'inscrire son serviteur et le nom de ce serviteur dans le kitab al-illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il cita également ce verset quand il dit, quand elle arrive au septième ciel, Allah ordonne d'inscrire ce livre dans le plus haut degré du paradis. Il dit, il cita le verset, qui te dira ce qui est l'illiyin? Kitabun marqum, c'est un livre cacheté. Yashhaduhu al-muqarrabun, dont les proches, les anges rapprochés d'Allah Azza wa Jal en témoignent. Ainsi la situation du croyant. Ensuite il ordonne que son âme retrouve son corps sur terre. Et l'âme à ce moment-là retrouve le corps. Et le défunt entend les pas de ses compagnons qui viennent de l'enterrer, faire demi-tour et s'éloigner de lui. Et à ce moment même, deux anges descendent du ciel avec un grondement fort. Ils le font asseoir dans la tombe afin de l'interroger, afin de le questionner. Il interroge au sujet de son Seigneur, au sujet de sa religion, au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il évoqua également le verset. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala raffermi ceux qui ont cru dans ce bas monde et dans par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Après avoir répondu convenablement, le croyant est raffermi par Allah Azza wa Jal. Il répond que son Seigneur est Allah, que sa religion est l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal, et que son prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, ordonne de lui ouvrir une porte donnant accès au paradis, de lui étaler sa tombe des tapis du paradis, de l'habiller des vêtements du paradis. Ça, c'est le cas du croyant qui est dans sa tombe. Et après, Al-Nabi alayhi salatu wa salam, il évoque la situation du mécréant, et dans des versions al-fasiq, du pervers, du désobéissant. Il dit, quand le mécréant, ou bien le désobéissant, le pervers, arrive à la fin de sa vie d'ici-bas, il est au début de la vie de l'au-delà. Il dit, viennent à lui, descendent des anges, durs et rudes, au visage sombre, au visage noir. Ils viennent avec eux.